Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas.
Bonjour à tous et bienvenue dans Cinexplore. Tous les derniers mercredis du mois, je vous propose de passer de l'autre côté de l'écran avec moi et de m'accompagner dans mes rencontres avec les professionnels qui font l'industrie du cinéma, de près ou de loin. IL peuvent être directrices de cinémathèque, passionnées, travaillées au financement des films, festivaliers ou festivalières, scénaristes ou même youtubeurs cinéma. IL sont quoi qu'il en soit des acteurs ou des actrices de cette industrie et ont forcément des choses à raconter. Et ça tombe bien parce que moi, j'ai envie de les écouter toutes ces choses-là. Mon invité d'aujourd'hui est un touche-à-tout, il a co-créé Vodcaster, une sorte de réseau social du cinéma. Il a écrit deux bouquins dans lesquels il explore Movieland, un pays imaginaire récipient de sa cinéphilie. Il est aussi avec Hugo Alexandre, la moitié de Calmos, la chaîne YouTube, qui, entre autres, analyse les comédies françaises dans une série appelée Rigolo. Enfin, il co-anime un podcast appelé Le Syndrome de Chambord, où, toujours avec Hugo Alexandre, ils co-écrivent un long métrage. David Honora m'a fait le plaisir de venir répondre à mes questions pour cet épisode de Cinexplore, où l'on va tenter de comprendre comment réussir à vivre de sa cinéphilie. Cet entretien a été enregistré le 26 novembre 2021 à Paris, chez mon amie Lola, qui a eu la gentillesse de me prêter sa salle à manger. Bonjour David, j'ai préparé une petite présentation après quelques recherches sur Internet, si tu permets. Ouais. Après un parcours à l'ESCP où tu fais un master en management spécialisé dans le management des industries culturelles et médiatiques, tu cofondes en 2009 le site Vodcaster,
tout à fait.
Qui appartient maintenant à Télérama.
C'était même pas après le diplôme, puisque j'étais encore à l'école en fait, quand on a créé Vodcaster. Ouais.
En 2017, tu crées avec Hugo Alexandre la chaîne YouTube Calmos,
ouais.
Qui diffusera à partir de 2018 une série de vidéos sur la comédie française. Alors, comédie française, pas évidemment la troupe de théâtre, hein, on aura compris.
Les films.
Les films, astucieusement nommés Rigolo. Toujours en 2017, tu publies ton premier bouquin intitulé Movieland, où tu répertories ce que j'imagine être une partie des films qui forment ta cinéphilie, en une carte que tu exploreras encore plus en détail dans le jeu de société Movieland, puis dans un deuxième bouquin, Retour à Movieland, lui sorti en 2020. En 2021, tu sors avec ton comparse de la chaîne Calmos, le podcast Le Syndrome de Chambord, où vous vous amusez à pasticher l'écriture d'un long métrage. Alors, depuis, j'ai écouté plus d'épisodes, parce que là, quand j'ai écrit ça, j'avais écouté le premier épisode, et il y avait ce côté un peu, peut-être, nonchalant, on va dire,
ouais.
Et je me disais, ah oui, en fait,
okay, en fait, on se prend au jeu.
Voilà, c'est ça.
C'est ça le truc.
Ouais, ouais, et c'est ça qui est hyper intéressant, quand on écoute sur la longueur, c'est quand même, enfin, je veux dire, vous êtes vraiment sérieusement en train d'écrire un film.
Bah oui, alors, c'est juste qu'on prend notre temps, parce que même les premiers, si je ne dis pas de conneries, de toute façon, c'est écrit sur les podcasts, mais si je ne dis pas de conneries, les premiers enregistrements, ils datent, je crois, de 2019.
OK.
On a mis beaucoup de temps, en fait, entre les premiers moments où on a enregistré et le moment où on a commencé à publier le podcast.
D'accord.
Et effectivement, le dispositif général est à la bonne franquette, littéralement, parce que le principe, c'est on se retrouve chez Hugo, autour d'une table, justement, à la manière de la fameuse scène de Calmos où Marielle et Rochefort s'ouvrent des bouteilles et du pâté à 4h du mat. C'est un peu ça, c'est le dispositif de base. Donc, ouais. on a de quoi boire et manger. Et on se laisse aller, en fait, à des élucubrations, parce que dans le premier épisode, on part de rien du tout.
Oui.
On n'a pas le début d'une idée.
Ouais.
Et on se dit, bon, on a envie d'écrire un film.
Ouais.
Quel film on écrit?
Ouais.
Et le truc, c'est que d'un épisode à l'autre, le film prend forme et on commence à avoir des personnages, on commence à avoir une intrigue, on commence à avoir des idées de scène, etc.
C'est ça.
Et plus le film avance, plus ça devient sérieux. Il y a toujours, du pâté et des bruits de bouchons au fur et à mesure des épisodes. Mais il y a un film qui prend forme et c'est ça l'idée. Alors... On nous a demandé d'ailleurs récemment à quel point on était sérieux en fait,
ouais,
dans
ouais.
la démarche, à quel point on veut vraiment faire un film. Bon, on est un peu entre les deux, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on sait très bien que c'est extrêmement compliqué, etc.
Ouais.
Et puis on a une manière de faire qui n'est pas du tout académique, quoi.
Ouais, ouais.
Mais on rêve un peu au truc, quoi. On
ouais,
se dit,
ouais.
Allons au bout, c'est une manière, une démarche qu'on n'a jamais vue, qui n'a jamais été faite comme ça.
Ouais.
Y a des possibilités, en fait, si on commence à avoir de l'engouement aussi sur le podcast, on peut aussi imaginer qui est des suites qui prennent d'autres formes, notamment en vidéo sur notre chaîne. Mmh. Et nous, il y a une idée qu'on a depuis longtemps, c'est qu'on adorerait faire des repérages en mode un peu vlog. Et ouais. En fait, on serait dans la voiture, comme dans le podcast, à continuer à construire le film, mmh. tout en allant essayer de visiter les potentiels décors. Ouais. Donc ça serait un format qui serait assez marrant à faire. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment d'aller aussi loin que possible dans la démarche et de s'amuser en le faisant. Et surtout, de partager ça, quoi, de partager cette expérience, de montrer... C'est quoi la démarche d'imaginer un film, quoi.
Ouais. C'est hyper intéressant, le podcast. Tu me disais, enfin, à l'instant, tu disais, ouais, on sait que c'est difficile, mais on va jusqu'au bout. Moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu, en tant qu'auditeur, du coup, c'est qu'il y a plein de moments où j'ai envie de rentrer. Et en fait, à un moment donné, je me suis même dit, mais je me demande si c'est pas vraiment comme ça. En fait, que se font la plupart des films, parce que c'est tellement, tu vois, naturel, et c'est tellement... en fait, c'est ça, quoi. J'ai l'impression d'être dans une salle d'écriture, sauf que c'est une salle d'écriture où il y aurait du vin rouge et du pâté, quoi. Mais
c'est ça.
Au final...
Je pense qu'il y a certaines salles d'écriture où il y en a.
Manifestement, oui.
Non, le truc qui est vraiment pas orthodoxe, c'est que, en gros, on s'est décidé à ne pas trop réfléchir au film et à ne pas écrire en dehors des séances enregistrées.
Ouais.
Or, enregistrer une séance, sachant qu'on a plein d'autres trucs à faire, qu'en plus ça oblige à se retrouver, à allumer les micros, etc., on n'arrive pas à le faire très fréquemment pour le moment. Mmh. Et donc, on est dans une écriture vraiment très, très étalée dans le temps.
Ouais.
Et donc, là, par exemple, on a voulu commencer à mettre en boîte des nouveaux épisodes. En gros, on est arrivé à la fin d'un premier cycle. C'est pas, je dirais pas une première saison, mais à la fin d'une première partie. Donc, ouais. Il y a 8 épisodes. On fait une pause. Et l'idée, c'est de mettre en boîte, d'avoir un peu de l'avance dans les épisodes pour quand on va reprendre les publications, qu'il n'y ait pas trop d'espace entre les épisodes. Ouais. Là, on en a enregistré 2. Et comme il y avait une grosse coupure, en fait, il y a une grosse partie du truc qui est, bon, alors, qu'est-ce qu'on s'était dit déjà ?
Enfin, on
se remet un petit peu dedans.
Ouais.
Et donc, voilà, c'est sur ces éléments que c'est très différent. Après, sur le fond, on se pose vraiment, les mêmes problématiques que quand on écrit réellement un film. En fait, c'est ce qu'on fait. Et après, peut-être qu'il va y avoir des étapes qui seront peut-être un peu moins radiophoniques. Enfin, mm-hmm. Peut-être quand on va rentrer vraiment dans le dur de l'écriture des dialogues, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué. Je ne sais pas, ça, on va le voir un peu au fur et à mesure. Mais en tout cas...
Ça pourrait déboucher sur, en tout cas, un nouveau format pour démarcher aussi des maisons de production, pourquoi pas. Je pense notamment, je ne sais pas si tu connais Jim Cummings, qui est un cinéaste américain.
Vu son film, j'ai oublié le titre.
Thunder Road. Et là, il y a Beta Test qui est sorti, que j'ai eu l'occasion de voir au Fifib, qui est exactement dans la même veine. Enfin, ouais. Pas du tout la même histoire, et c'est... quasiment un thriller horrifique, quasiment, quoi.
Okay.
Je pense que les fans de thriller horrifique vont sauter sur leur chaise en écoutant ça, mais en gros, c'est un truc qui est un peu plus spé qui est pas vraiment dans cette comédie, cette espèce de comédie à cheval, quoi. On sait pas trop sur quel pied danser. Et lui, en fait, dit que ce qu'il fait beaucoup et ce qu'il encourage les nouveaux cinéastes à faire, bon, une fois de plus, lui, il est dans le système américain, donc... Vraiment, il a très peu d'aide. Et puis, nous, on est tenus en France à respecter certaines choses, si on veut obtenir certaines subventions. Ouais. Lui, c'est pas le cas. Mais en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il enregistre ses scénarios en podcast.
Très marrant.
Et ensuite, il les envoie aux maisons de prod sous cette forme-là.
Ouais.
Alors bon, je sais pas dans quelle mesure, parce qu'en réalité... Je sais pas quelle maison de prod, puisqu'il est quasiment autoproduit et tout, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il dit. J'ai cherché beaucoup, j'ai jamais trouvé, donc je sais pas si c'est un podcast pour de vrai ou si c'est juste un truc qu'il enregistre pour lui, pour ensuite envoyer. Mais voilà, et on pourrait tout à fait imaginer ça avec le.
Oui, et puis même plus lointain, mais il y a des exemples. Par exemple, Godard a fait des versions filmées de ses scénarios pour envoyer à l'avance sur recette. Il y a eu parfois des démarches un peu originales, bon, qui sont aussi. Qui s'intègre dans la démarche artistique, etc. Mais parce qu'en fait, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que le syndrome de Chambord, c'est les deux.
Ouais.
C'est-à-dire que effectivement, on essaye d'écrire le film, mais aussi on essaye de faire un podcast qui est agréable à écouter.
Oui.
Donc en fait, il y a aussi ça, c'est-à-dire qu'on fait les deux en même temps, on produit quelque chose qui...
À l'image de vos vidéos, extrêmement fouillées et recherchées, il y a énormément d'extraits audio. qui sont proposés et qui sont vraiment un régal parce qu'en fait, il y a un côté presque qui s'instaure, je trouve, avec l'auditeur, en tout cas moi c'est mon cas, qui est un espèce de jeu où vous balancez un truc qui est généralement très référencé et il y a ce moment où on se dit, tiens, c'est quoi ça déjà, attends. Et on cherche, ouais. et quand on l'a pas, c'est presque frustrant, tu vois, on se dit, tiens, c'est quoi, c'est un film, c'est une vidéo, c'est quoi, tu vois.
C'est marrant parce que justement, cette illustration donc, qui est faite forcément après coup au montage, en gros, la démarche. Mettons qu'une séance d'écriture, on discute pendant à peu près 3 heures, on a 3 heures d'enregistrement et puis c'est réduit à 30-45 minutes d'épisode de podcast.
Ce qui déjà en soi est un gros travail de montage.
Et voilà, il y a un gros travail de montage, de compression, parce que autant ça peut paraître un peu fluide et encore pas tant que ça dans le podcast, dans la réalité il y a des gros moments de bon en fait... je sais pas, repasse-moi la bouteille. et puis en fait parfois a posteriori on se rend compte en fait de références inconscientes.
Ouais.
On repense à des trucs, enfin ne serait-ce que par exemple l'image, je crois qu'on en parle dès le premier épisode, de l'idée du caddie.
Ouais.
En fait ça renvoie inconsciemment, je pense, à la scène d'ouverture de Merci la vie de Blier.
Ouais.
Et en fait, dans le caddie, elle est en robe de mariée, quoi. Et c'est cette connexion qui est absolument inconsciente de ce qu'on recrée après dans l'histoire.
Ouais.
Bah, en fait, on a la ref, il y a peut-être un truc, tu vois, un peu subliminal qui fait des connexions dans notre cerveau, qui arrive naturellement. On ne pense pas du tout à la référence, mais effectivement, ça fait partie du truc.
Ouais.
Et en même temps, on essaye de pas trop être là-dedans non plus, notamment dans nos conversations. C'est-à-dire que parfois, en fait, quand Hugo va avoir une idée ou moi, je vais avoir une idée, qu'on va essayer de l'illustrer, on va dire, ah bah, tu vois, ça peut faire penser à tel film. Donc, on a ce champ de référence commun.
Bien sûr,
ouais. Parfois, on va en parler. Ce qui est aussi notre volonté, parce qu'on veut aussi faire un podcast de cinéma. Mm-hmm. Donc, nous, ça nous intéresse de parler de références pour donner envie aux gens de voir des films, etc., pour qu'on parle de cinéma. Voilà, en fait, initialement, enfin depuis longtemps, parce qu'on fait de chacun de notre côté des podcasts, moi j'ai longtemps contribué, enfin du temps que ça existait à Nos Ciné, qui était un podcast de critique cinéma, Hugo contribue à MDR, qui est un podcast de critique sur les comédies françaises, avec Daniel Andrieff. On voulait faire un podcast Calmos, mais on a longtemps réfléchi pour essayer de trouver une approche originale et justement faire autre chose que juste de la recension de films ou de la critique. Donc on a fini par avoir cette idée-là qui nous plaît bien parce qu'elle elle est complètement complémentaire de ce qu'on fait par ailleurs en vidéo. C'est plus difficile en fait de faire connaître et de viraliser un podcast par rapport aux vidéos. Donc on a un public qui est beaucoup plus restreint. Mais par contre, c'est marrant, il y a un engagement qui est très fort. C'est-à-dire que les gens qui ont écouté et qui ont dépassé, je dirais, le troisième épisode, une fois que tu es dedans, tu es vraiment et tu veux que ça avance. Donc on a des relances, quand est-ce que ça reprend, etc. Donc c'est un petit groupe de personnes qui nous écoutent. On espère qu'on aura petit à petit plus d'auditeurs. Mais en général, c'est des gens très impliqués. Et ça nous fait super plaisir.
Ouais. On a commencé par le podcast. C'est bien parce que c'est pas du tout ce que j'avais prévu, mais c'est pas grave. Avec le nouveau rendez-vous donc que je suis en train de faire là sur les interviews, je vais chercher des gens disparates. J'interroge des gens qui sont rattachés de près ou de loin à l'industrie du cinéma. Et en général, je veux discuter avec des gens qu'on n'entend pas ou qu'on entend peu. Donc ça me semblait intéressant d'aller chercher. Moi, la personne que j'allais chercher au départ, c'était les gars de Calmos. Puis ensuite, j'ai découvert que c'était toi. Donc je te connaissais déjà par Vodcaster, par Can Inside, par tout ça. Ce qui m'intéresse avec ton profil, c'est qu'on dirait que tu as réussi à professionnaliser la cinéphilie, en fait. Quand tu penses à ton parcours, quel regard tu portes dessus ? Donc, je parle depuis Vodcaster, mais tu peux inclure plein d'autres choses auxquelles j'aurais d'ailleurs peut-être pas pensé.
En fait, je pense que en tout cas, c'est exactement mon objectif personnel, même si le niveau de professionnalisation pour moi est encore un peu insatisfaisant. parce que, faut quand même pas mal faire de trucs, et je continue à faire encore des trucs à côté, plus alimentaires, divers et variés, même si j'essaye au maximum de faire des choses liées au cinéma. Mais c'est vraiment ma démarche. En fait, c'est marrant que tu t'es cité en introduction le fait que j'ai fait une école de commerce, parce que je sais même pas où ça se trouve sur Internet.
Sur ton profil LinkedIn.
Voilà, il n'y a que là que ça peut être. Parce que en gros, moi, je ne savais pas trop ce que je voulais faire au lycée. J'avais des plutôt bons résultats à l'école, donc en gros, j'étais dans la démarche de, comme tu sais pas, va faire une prépa et machin. Et en fait, je suis arrivé en prépa. Et c'est là vraiment qu'a explosé ma cinéphilie, quoi. C'est l'époque où j'ai découvert Kill Bill, notamment, qui était un film vraiment, enfin, vraiment très important pour moi, parce que moi, à la seconde où le film se termine, je sais, ça y est, moi, ce que je veux faire, c'est quelque chose lié au cinéma. Mmh. Et du coup, j'étais en prépa, avec énormément de boulot, des trucs... Et je me disais, mais dans quoi je me suis engagé? Moi, ce que j'aurais voulu faire, c'est faire du cinéma, des études de cinéma, que ce soit la fac ou la FEMIS ou que sais-je. Mais bon, j'étais là-dedans et puis je suis quelqu'un d'un peu sérieux. Donc quand je suis dans un truc, bon, je continue. Et donc quand je suis arrivé à l'école à Paris, moi je viens de Lyon à la base, qui est déjà une belle ville de cinéma, et arrivé tout seul dans un studio à Paris, ma vie est devenue une orgie de cinéma. J'allais au cinéma tout le temps, parce que l'école de commerce est moins prenant que la prépa. Et du coup, voilà, je me suis vraiment jeté à fond là-dedans. J'ai fait aussi ma culture cinématographique de manière autodidacte, comme ça, en lisant beaucoup de bouquins, en lisant la critique ciné. Je lisais beaucoup les cahiers à l'époque. Je lisais Première avant, et puis je me suis mis à lire beaucoup les cahiers. Et surtout, voir énormément de films. J'ai commencé à écrire aussi sur le cinéma. Je faisais de la critique. Et puis petit à petit, mon questionnement, c'était, là où 95% de mes camarades de promo vont faire de l'audit, de la finance ou du conseil, moi, je veux bosser dans le cinéma. Donc, qu'est-ce que je peux faire, etc. Qu'est-ce que je vais trouver? J'ai fait un stage dans un syndicat de producteurs de cinéma.
Qui s'appelle
Alors, ça s'appelait l'APC à l'époque. En fait, ils ont fusionné avec l'UPF et c'est devenu l'UPC.
On se croirait dans un truc de parti politique obscur.
De toute façon, c'est un peu le MEDEF du cinéma. C'est les producteurs, donc les patrons. Donc moi, j'avais trouvé ça. C'était un poste d'observation hyper intéressant, parce que notamment une partie de mes tâches de stagiaire, c'était d'entrer dans une base informatique, les plans de financement des films. Donc j'ai vu défiler des dizaines et des dizaines de plans de financement. Donc je commençais à comprendre concrètement comment ça fonctionne, la production d'un film, les aides, l'aide de la région, l'avance sur recettes, puis les distributeurs, les acquisitions télé, etc. etc. Donc j'ai, grâce à ça, bien commencé à cerner l'industrie du cinéma. C'était aussi à l'époque... Il y avait à la fois des mouvements sociaux et la mise en place de la convention collective sur les techniciens, donc cet aspect était hyper intéressant. Il y avait aussi la mise en place d'Adopi à l'époque, qui du point de vue des producteurs était un truc intéressant. Et puis donc là, c'est un syndicat de producteurs, donc qui en gros, là l'UPC aujourd'hui, c'est ce qui rassemble la plupart des producteurs indépendants. Et en France, indépendant, c'est au sens, c'est ceux qui ne sont pas liés aux exploitants, aux chaînes de salles, donc c'est pas Gaumont, UGC. Pathé, UGC, etc., mais c'est tous les plus gros, quoi. Il y a les mandarins, Fidélité, etc. Et donc, en même temps, j'ai rencontré des gens, etc. Et c'est là que j'ai rencontré, en fait, mon associé pour Podcaster. Et donc, j'étais en année de césure, en fait, entre la deuxième et la troisième année d'école. J'ai fait les 6 premiers mois de stage là-dedans. Et pendant le deuxième semestre de cette année-là, on a créé Podcaster ensemble.
D'accord.
Et donc après, j'avais encore une année d'école à finir et je me suis directement lancé dans Podcaster. Et pendant tout le temps où je travaillais à Podcaster, mon rôle et la réflexion, c'était d'essayer de trouver un modèle économique justement autour de la cinéphilie. On a eu des variantes, on a eu plein de... C'était vraiment une histoire classique de start-up où tu changes de modèle économique tous les 6 mois. Donc, t'es en stress permanent, mais c'est très stimulant et très intéressant. Puis, sorti de ça, en fait, au moment où le site a fini par être repris par Télérama, moi, je suis parti, j'avais envie de faire des nouvelles choses. Mais j'avais envie de continuer, en fait, à vivre de ma passion et donc faire des choses autour de ce qui me passionne. Et c'est effectivement le cinéma et la cinéphilie. C'était comment on parle de cinéma sur Internet, comment on échange, comment on crée des formes nouvelles, comment en fait on réussit à utiliser de manière pertinente les outils pour pour décrypter les films, pour créer de la conversation, etc.
Alors justement, je vais sauter une question, je reviendrai après dessus. Sur la vidéo de présentation de Calmos, vous avez fait pour annoncer une éventuelle FAQ ou ce genre de choses. Hugo Alexandre et toi, donc ton collègue de Calmos et toi, vous dites que vous êtes persuadé que le format vidéo est idéal pour analyser des films. On doute encore un peu qu'il y ait de la place pour deux trentenaires barbus et cinéphiles. Ce qui m'a fait beaucoup rire, parce qu'effectivement, on est quand même tous globalement très blancs et très trentenaires, et tous des hommes. Comment est-ce que vous êtes persuadé du contraire, au final? Et quel regard tu portes sur le milieu des youtubeurs vidéo?
Alors, d'abord, enfin, juste une petite parenthèse, mais je trouve, et de manière très... je suis très content que c'est de moins en moins tous des hommes. Il y a plein de chaînes YouTube qui commencent... depuis je dirais 2-3 ans, à être de plus en plus productives et qui sont tenues par des femmes. Je pense à, là, je viens de voir une super vidéo d'une chaîne qui s'appelle Cinéma et Politique, sur le chagrin et la pitié. Elle a fait une vidéo de 30 minutes qui est vraiment passionnante. C'est du niveau d'un petit documentaire télé. C'est vraiment hyper bien foutu.
J'en ai vu une extraordinaire aussi sur le portrait de la jeune fille en feu. Je ne me souviens
plus. C'est Amazing Amy, je crois. C'est Amazing Lucy, je ne me trompe pas. Exactement, c'est un super essai. Il y a Clara Runaway, La Manie du cinéma, il y a plein de chaînes, Demoiselles d'horreur, dans des domaines différents, avec des youtubeuses, si on peut dire ça. Et ce qui est marrant, justement, c'est que beaucoup de ces nouvelles chaînes se positionnent sur le format qui nous a intéressé quand on a lancé Calmos, c'est le format de l'essai vidéo. Donc c'est moins que le côté la critique face cam ou je vais vous présenter un film face cam et où je le mets en scène avec un personnage façon le fossoyeur de film. Ça va souvent être plus de l'analyse, etc. Et les jeunes vidéastes qui se sont lancés sont de plus en plus sur l'essai vidéo. Et donc, pourquoi on s'est dit qu'on avait quand même notre place? En fait, on s'est dit deux choses. Ça rejoint cette question de l'essai vidéo, c'est qu'on pensait, on avait des références américaines et on trouvait qu'elles étaient... qu'il n'y avait pas tant d'équivalents que ça en France. Les références américaines que j'ai en tête, c'est notamment Every Frame a Painting.
Oui, bien sûr.
J'ai du mal à le prononcer, mais... qui est pour moi une grosse ref. Et d'ailleurs, les deux mecs qui font ça, Tony Zhu et son compère, j'ai oublié le nom, vont faire pour Netflix une série d'essais vidéo produits par Fincher.
Ah oui, d'accord.
Donc ça arrive, et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'ils avaient arrêté la chaîne. Et puis il y avait quelques autres références comme ça, Bernard Reiter, son nom vient de m'échapper, ça me reviendra plus tard, mais il y a un certain nombre de références américaines comme ça. En France, le truc qui me séduisait le plus et que je trouve vraiment extraordinaire en termes de boulot, c'est ce que fait Karim Debbache et son équipe. Et donc, à l'époque où on s'est lancé, il était en train, je crois, de publier les derniers épisodes de Chroma. Et donc ça, c'était, pour nous, c'était le pendant français de ce qu'on aimait vraiment, c'est aller loin dans l'analyse, avoir un truc qui soit rythmé. Qui se regarde avec plaisir et en même temps qui est autre chose que te dérouler des informations que tu trouves sur Wikipédia, qui est autre chose que juste mettre en scène le truc. Il y a plein de formats super intéressants et super bien foutus, mais nous, c'était pas ce qu'on voulait faire au début. Et en fait, là où on s'est dit qu'on avait notre place, c'est sur une niche qui n'est pas vraiment une niche en termes d'entrée, parce que c'est ce qui est le plus populaire en France, mais c'est les comédies. Et nous, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Un certain nombre de nos films cultes et des films qui ont forgé notre cinéphilie, c'est des comédies françaises. C'est parfois aussi du cinéma, typiquement comme les films de Blier, qui sont de la comédie, mais qui ont aussi une portée cinématographique qui transcende un peu tout. C'est difficile de les réduire à la comédie. Et donc, à partir de ça, on se disait, c'est un sujet qui est pas suffisamment traité sur YouTube, voire qui est méprisé. Et là, je pense qu'on a un coup à jouer. On savait pas si ça allait intéresser les gens. D'ailleurs, on a publié les deux, trois premières vidéos qu'on a publiées. On faisait 2000 vues à tout casser. Mais c'est de ça qu'on avait envie de parler.
Ouais.
Et on a mis quand même beaucoup de temps à le faire, à tel point que, en fait, alors que c'était notre idée de départ de lancer une chaîne YouTube, on a commencé par lancer une newsletter. Et donc, on a lancé la newsletter auquel on peut s'abonner sur calmos.net. Là, elle est en sommeil en ce moment.
Oui, j'ai essayé, mais malheureusement, je n'ai pas eu accès au site.
Et donc, cette newsletter qui, quand elle est en route, donc normalement, pendant l'essentiel de la saison de cinéma, on la publie tous les jeudis, donc c'est hebdomadaire. On parle de l'actu et aussi de trucs qu'on trouve sur Internet, de trucs plus anciens. Et ça a été notre truc de départ pour se dire, voilà, faut qu'on ait quelque chose à publier régulièrement pendant qu'on s'arrache les cheveux à trouver à quoi va ressembler le format, comment on va s'y prendre, etc. Et on a mis pas mal de temps à mettre au point le format. Au début, on était sur des trucs thématiques. Par exemple, un des premiers sujets sur lesquels on a bossé, on en retrouve des éléments dans la deuxième vidéo de Rigolo. C'est ce qu'on appelle le point de ta gueule, le fait que c'est un effet comique dans la comédie française, ouais. qu'à un moment, à brûle-pourpoint, un personnage va répondre ta gueule, ouais. ou va crier ta gueule. Ouais. Ça, on en trouve quasiment dans toutes les comédies. Quoi. Il y en a tellement. Et donc, dans l'épisode 2, à un moment, on fait un montage super cut de plein de ta gueule. Et en fait, au début, on se disait, bon, alors, faire une vidéo, le point ta gueule au cinéma, ou le point ta gueule dans la comédie, ouais. machin. Et on avait du mal à avoir un truc, à trouver l'angle, à trouver l'amorce. Et on a mis quasiment 6 mois, en fait, à trouver... à se redire, en fait, non, c'est pas con de partir d'un film en particulier, ouais. quitte à ouvrir des thématiques plus ouais. larges. Et en fait, le fait de trouver des petits gimmicks, par exemple la blague de début, ouais. Le petit récap du contexte de l'année, des choses comme ça, c'est des choses qui nous ont vachement aidé à nous structurer. Et en fait, voilà, avoir un format, et après, tu peux t'amuser avec le format.
Ouais.
Et tu sais comment commencer, tu sais comment finir. Maintenant, après, il faut remplir, il faut raconter les trucs. Mais c'est vrai que ça a été longtemps notre difficulté. C'est, voilà, on veut un truc catchy, rythmé, qui va être précis, qui va parler d'un sujet particulier, etc. Et on avait besoin de trouver le format. On a inventé en fait le format rigolo. Ouais. On a eu l'idée de la petite blague, le machin. Et en fait, mine de rien, quand t'as ta feuille blanche et que tu commences à dire bon bah là c'est la case, faut trouver une blague. Et puis là, c'est simple, on prend l'année du film et puis on regarde qu'est-ce qui se passait cette année-là. Bah, en fait, ça commence à remplir le
truc.
Ouais,
c'est clair. T'as un conducteur, quoi.
Ça donne un conducteur ouais. et ça rassure en fait.
Ouais, c'est clair.
Et donc, voilà comment est né Rigolo, comment on s'est dit qu'on avait la place. On avait aussi la question de la voix et de l'incarnation, justement. Mm-hmm. On savait dès le début que pour des raisons pratiques, on voulait faire du pur essai vidéo, donc c'est uniquement du montage avec ouais. une voix off. Et donc, on s'est posé aussi des questions sur la voix au début. Est-ce que c'était moi qui le faisais? Est-ce que c'était Hugo? Est-ce qu'on prenait une autre voix, etc. On a failli par choisir Hugo. Déjà parce que moi, j'aime pas du tout ma voix. Je suis très complexé. J'ai une manière, j'ai une voix un peu nasillarde que j'aime pas. Celle d'Hugo est plus posée. En plus, il peut commencer à prendre des cours de théâtre et tout. Donc, on s'est dit, vas-y, manco. Et puis, on s'est dit aussi que c'était finalement mieux et que ça correspondait mieux à YouTube que ça soit l'un de nous. Parce que on a vu d'autres formats où en fait, si tu prends quelqu'un de trop pro pour faire la voix, quelqu'un qui va dans un ton presque trop télé,
ouais.
il y a un truc qui, à mon sens, paraît un peu désincarné. En fait, et je pense que c'est très important, mine de rien, que la personne qui fait la voix soit aussi la personne qui a écrit ou qui a contribué à l'écriture du texte, parce que il sait de quoi il parle. En fait.
Ouais, ouais.
Et à mon sens, ça s'entend. Si ça passait en télé, là, les gens auraient peut-être des... encore que, franchement, je trouve que maintenant, Hugo, il a une voix... On a progressé hein, sur le ouais. son et la voix, mais je trouve qu'il a une voix nickel. Et même des gens font des compliments là-dessus.
Ouais.
Mais si ça passait en télé, ça sonnerait un peu bizarre.
Ouais.
Alors qu'à l'inverse, sur YouTube, pour moi,
C'est ça, il y a un côté un peu do-it-yourself aussi
ouais,
qui est important. Important.
Ouais, qui est ça très fait, important, vraiment, fait vraiment partie du truc.
Si tu veux vendre un peu... Vendre, évidemment, c'est pas forcément un très joli mot pour ce truc-là, mais si tu veux réussir à donner ça aux gens qui vont le voir et leur faire comprendre que c'est toi qui as fait ça, je pense que c'est effectivement ouais. primordial.
Et d'ailleurs, beaucoup de gens en commentaire disent « tu ».
Ils
disent
«
t'es trop fort, mec
ouais, ».
Voilà. Pour eux, il y a un gars quoi, qui...
Oui, bien sûr, ouais. bien sûr. Je voudrais revenir sur ta participation à la création de Vodcaster en 2009.
Ouais.
D'une certaine manière, pour moi, Vodcaster a participé à démocratiser la cinéphilie. Paradoxalement, on dit beaucoup du cinéma que c'est un art populaire, mais souvent, les cinéphiles acharnés, à l'image un peu des acharnés de musique, sont très fermés, très repliés sur leurs convictions et n'acceptent pas ou peu que l'on vienne bousculer ces certitudes. Donc, typiquement, si tu dis que tu n'aimes pas la Dolce Vita dans un milieu cinéphile, ça va être très mal vécu. Comment tu considères la cinéphilie, toi, et est-ce que cette idée de participer à démocratiser le cinéma, donc en fait à populariser à nouveau le cinéma et à pas en faire quelque chose qui serait destiné à une élite avec que les films de la Nouvelle Vague ou que les films du néo-réalisme italien, par exemple, pour citer que ces deux mouvements, est-ce que ça te plaît cette idée-là ou alors
Non, bah, clairement c'était la feuille de route. Alors après, moi, vraiment je pense que c'est démocratiser la cinéphilie parce que le cinéma, il est démocratisé, le cinéma est populaire, enfin voilà, une grande partie de la population va au moins une fois au cinéma par an. Et même en fait, même quand tu vas pas au cinéma, tu es touché par le cinéma, notamment à travers les stars, qui, voilà, ça reste un sujet très populaire. En revanche, la cinéphilie, une cinéphilie revendiquée, dire je suis cinéphile ou j'aime le cinéma, etc., effectivement, est un terrain un peu plus miné. Nous, il y avait une référence qu'on avait depuis le début, auquel on pensait tout le temps, c'est marrant que tu fasses le parallèle avec la musique, mais c'est le personnage de Jack Black dans High Fidelity, qui est une sorte d'ayatollah qui engueule les clients s'ils n'aiment pas tel truc ou s'ils aiment tel truc, qui fait des top 5 en permanence, etc. Et effectivement, d'une certaine manière, l'utilisateur type de Vodcaster a pu être un peu de Jack Black. Ouais. Et en même temps, il faut gérer ça. En même temps, c'est aussi, par exemple, ce qui continue à être notre démarche, par exemple, avec Calmos, d'essayer d'avoir un truc qui est érudit, mais qui est ouvert à tout le monde et qui va donner envie, au contraire, de découvrir des choses. Et la démarche de Vodcaster, c'était aussi de décomplexer vis-à-vis de ça. En fait, de se dire, la cinéphilie, c'est quelque chose auquel on prend goût. Pour moi, au contraire, plus tu es cinéphile réellement, et plus tu as vu de films, et plus tu as une importante culture cinématographique, plus tu as conscience de tes lacunes. Et voilà, moi je continue à être pétri de lacunes et de complexes. J'ai pas encore vu ça, je sais pas ça, je connais pas bien. Je n'ai vu ce film que trois fois, donc j'ai pas bien la ref, etc. Et donc on trouve toujours plus cinéphile que soi, on trouve toujours plus érudit. Enfin voilà, moi je pense qu'il faut au contraire célébrer une cinéphilie ouverte, de partage, etc. Parce que c'est aussi dans les échanges, c'est aussi dans les conversations sur le cinéma qu'il y a du plaisir, en fait. Dans un complètement autre domaine, moi je suis par exemple très fan de foot. Le foot, c'est aussi un sujet culturel. D'ailleurs, il y a les deux citations existent. Il y a la citation de Truffaut qui dit qu'il y a 60 millions de critiques de cinéma. Et on dit aussi dans le foot, il y a 60 millions de sélectionneurs. Je veux dire, c'est des sujets qui ont besoin de vivre par la conversation. Et effectivement, je vois ce que tu veux dire. Et sur des réseaux, un peu toxiques comme Twitter, par exemple, tu vas très vite avoir ce genre de phénomène. Il y a ce truc qui est devenu un mème maintenant oui, moi, je suis cinéphile, j'aime le Parrain 2 ou je sais pas. Et en fait... Ce que je me dis, c'est que il faut au contraire promouvoir l'échange parce que le plaisir vient de là.
Ouais.
Et j'ai complètement perdu le fil de ma pensée avec ma connerie.
Sur des réseaux toxiques comme Twitter, tu disais.
Ouais, en fait, c'est là que tu vas ressentir. Ouais, voilà, en fait, c'est ça. C'est que en fait, tu vas ressentir sur Twitter une forme de pression. En fait, à être un bon cinéphile doit avoir vu ça, etc., qui pour moi est une connerie absolue. Enfin, un cinéphile, c'est celui qui aime les films et qui a envie de les découvrir. Au contraire, c'est presque une chance de ne pas encore avoir vu tel film parce que tu vas avoir la chance de le découvrir. Mais en vrai, pour moi, le cinéma n'est justement pas du tout un sujet sur lequel il y a une forte pression. Elle est assez faible, la pression, en général, parce que tu sors d'une salle de cinéma... Absolument tout le monde se sent tout à fait légitime à donner son avis sur le film.
Bien sûr.
Alors que justement, dans d'autres domaines, que ça soit la peinture, la littérature, ouais. la musique aussi, les gens sont, à mon avis, davantage bridés.
Ouais.
Donc je pense que le cinéma, c'est vraiment un sujet sur lequel tout le monde a un avis, comme le foot. Et il n'y a pas de... Enfin, c'est vraiment une fausse idée. À mon avis, c'est un biais qui est donné effectivement par les réseaux sociaux et par des gens sûrement frustrés qui en fait, voilà, veulent surcompenser en dénigrant les autres, là où il n'y a pas raison. Donc, si on veut être encore plus précis, la démarche de votre casteur, ça aurait été de démocratiser la cinéphilie sur Internet. C'est d'essayer de créer un espace, et à mon avis, sur la fin, on a un petit peu galéré, la communauté a été un petit peu difficile à gérer sur la fin, et on a un peu inévitablement recréé des sortes de chapelles, à mon avis, un peu nocives. Mais c'est sur Internet qu'il peut y avoir ce phénomène-là.
Ouais,
dans la vraie vie, en général, la cinéphilie, elle vit très bien, quoi, je pense.
Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu étais pétri de lacunes et que tu étais parfois mortifié de te dire que tu n'avais pas vu tel ou tel autre film ou que tu ne connaissais pas bien tel réalisateur, que tu n'avais pas la ref. C'est quelque chose qui me surprend énormément parce que chacune de vos vidéos sur Calmos sont extrêmement fouillées. Moi, j'étais estomaqué, mais particulièrement la dernière. Là, c'est ahurissant la cascade de films qu'il y a. Même il y a des moments en fait je suis obligé de faire pause pour noter en disant ça j'ai pas vu, ça j'ai pas vu, ça j'ai pas vu, ça non plus. C'est très référencé et bon, moi j'écris Cinécure qui est donc le rendez-vous principal de ce podcast où je conseille des films en fonction de ce que j'ai aimé, hein. Je me laisse complètement guider par les choses que j'ai vues et que j'ai aimées, donc j'écris quand même pour le podcast et puis j'écris aussi, j'ai un projet de développement de chaîne vidéo d'essai moi aussi et pour le travail que ça requiert d'écrire ça, je suis complètement admiratif vraiment du travail qui est fourni sur Calmos. Où est-ce que vous allez chercher toutes ces infos et comment se fabrique une vidéo depuis l'idée de départ jusqu'à sa mise en ligne? Parce que là, c'est quand même... Enfin, je répète, pour si vous ne connaissez pas la chaîne, là, les auditeurs qui nous écoutaient en ce moment...
YouTube.com/Calmos.
Voilà, précipitez-vous et vous allez voir, la quantité de références est ahurissante. Et je ne dis pas ça juste parce que David est en face de moi, vraiment, je le pense. C'est presque too much même, j'ai envie de dire, il y a des moments...
C'est vrai que sur la dernière vidéo, donc là on parle de l'épisode 10 sur les tontons flingueurs, on a battu notre record de nombre de films cités à l'intérieur, il y a plus de 100 films.
Ouais, voilà.
Enfin, il y a plus de 100 films qu'on voit
donc,
en image.
Ces films-là, il faut les avoir vus, il faut repérer le moment qui vous intéresse par rapport au sujet qui est traité.
Ouais.
C'est un travail.
Alors, en même temps, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire plus tu vois de films, plus tu te rends compte de tes lacunes, etc.
Ouais.
Aussi, on a une cinéphilie qui aussi. D'une certaine manière, bénéficie d'Internet. C'est-à-dire qu'on nous a par exemple posé la question en commentaire. À un moment, il y a une séquence, on parle de la série noire. Et il y a une séquence où on enchaîne, je ne sais pas, il y a 5 ou 6 extraits de personnages dans des films qui lisent des séries noires.
Oui.
Donc il faut les trouver.
Mais c'est ça, oui.
Mais avec Internet, quand tu sais bien chercher sur Internet, tu peux trouver des trucs. Donc par exemple, on a trouvé un Tumblr qui référence des personnages qui lisent des livres dans des films. Donc c'est un point de départ. Au moment où on était en écriture, je vois passer un poste de la Cinémathèque qui partage un extrait d'un film de Luc Moulet. Je vois l'extrait, à un moment il y a un plan avec Amalric en train de lire une série noire.
Ouais.
Donc tu trouves, bon évidemment on se rappelait de Jean-Claude Duss sur la plage avec son... Donc il y a celle qu'on connaît. Je crois qu'on n'a pas mis, mais il y a aussi le fameux plan du mépris avec Bardot qui a une série noire sur les fesses, pendant qu'elle bronze sur la terrasse. Donc on a des éléments comme ça, on a des souvenirs, on a des trucs qu'on trouve via Internet. On voit pas forcément, pour le moins, de micro-extraits. Je dirais pas qu'on a vu tous les films non plus. Par exemple, là, le film de Luc Moulet dont je parle, malheureusement, je l'ai pas encore vu. Mais voilà, donc déjà, il y a l'aide d'Internet. Il y a le fait que, justement, à chaque fois qu'on s'intéresse à un sujet, on va découvrir plein de choses.
Mm-hmm.
Et des choses qu'on connaissait pas avant, des choses qu'on connaissait vaguement, mais qu'on n'avait pas vues, etc. Et puis, par ailleurs, on continue d'avoir des sujets qu'on connaît moins, ça prend du temps.
Bien sûr.
Donc,
c'est de la lecture, j'imagine.
Donc, il y a une grosse phase de préparation, effectivement, avec de la lecture. En fait, dans la répartition des tâches, dans notre mode de fonctionnement, je dirais que Hugo est plus le documentaliste. Lui, il aime bien aller se plonger. Il va notamment à la médiathèque François Truffaut, qui est au Halles. Mmh. Il va récupérer des coupures d'articles, des choses comme ça, des bouquins. Et il est très là-dedans. Moi, je suis quelqu'un de plus intuitif, ouais. Qui va plus faire des associations de manière un peu plus intuitive, etc. Et puis, donc, on rassemble toutes ces idées. Et on commence à élaborer un plan. Maintenant qu'on sait qu'on part un peu des deux, c'est-à-dire qu'on part d'un film qu'on a envie de traiter, on identifie les grandes thématiques qui vont faire le sujet de la vidéo. Parfois, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on va avoir envie de traiter une thématique et on va chercher le film qui correspond bien. Ouais. Et puis, on avance sur les deux. Et là, on passe vraiment beaucoup de temps sur l'écriture, sur comment on déroule le sujet. Il y a justement, je parlais de Every Frame a Painting, il y a une excellente vidéo qui est à propos de F for Fake, mm-hmm. de Orson Welles, et qui est sur l'écriture d'un essai vidéo. Mm-hmm. Et en fait, il explique là-dedans qu'il y a un truc qui est très important, c'est de faire en sorte en fait, que les séquences ne s'enchaînent pas comme une liste. Et donc, d'avancer en cause-conséquence. Donc, tu donnes une information... Et tu vas passer à la séquence suivante, à l'information suivante, par un donc ou par un mais,
ouais.
Ou par un or, c'est mais ouais, donc ornicard, conjonction de coordination. Et donc c'est très important parce qu'en fait c'est ça qui va faire la fluidité,
ouais.
C'est ça qui va te donner l'impression, tu vas lancer la vidéo et en fait elle va être finie et tu vas dire ah, putain j'ai pas vu le temps de passer, j'ai été pris dans le flow du truc. Parce que c'est pas une liste.
Oui,
et ça, c'est le travers. Même nous, à l'écriture, à chaque fois, c'est un truc qu'on corrige. C'est-à-dire qu'un peu naturellement, au début, on a une liste de trucs dont on veut parler, mais elles sont pas reliées.
Ultra linéaire.
Et ça, c'est donc une grosse partie du boulot, c'est de poncer le truc, de poncer le texte, de le réharmoniser pour que ça soit fluide. Ouais. Ensuite de rajouter du fun, donc de rajouter des conneries, des blagues, des machins, trouver des répliques qui vont s'intercaler dans le monologue, dans la voix off.
Et ça, c'est un boulot de chinois.
On passe beaucoup de temps dessus, faut trouver des idées, etc. On a ce ping-pong, on est très relou tous les deux, donc on va partir d'une idée et puis on va être très chiant l'un avec l'autre jusqu'à ce que ça nous satisfasse tous les deux.
Ouais.
Donc ça, ce jeu de ping-pong, c'est marrant que dans notre toute première vidéo, c'est sur la personne à deux personnes et c'est une thématique, justement, le fait de travailler à deux, le fait d'être deux dans une même tête, c'est un truc... Qui caractérise pas mal notre boulot. Et donc voilà. Et après, des heures de sueur, on finit par avoir un truc. Et aussi, on bosse beaucoup au montage. Une fois qu'on a un texte, en fait, terminé, on le met en image. Mm-hmm. Mais ensuite, justement, une fois mis en image, on a encore plein d'ajustements. Et on cherche des manières d'illustrer tel ou tel truc. Et ça, pareil, c'est beaucoup de temps.
Ouais,
et après, il y a le temps technique. La dernière vidéo, elle se termine sur un plan de la grande famille du cinéma, qui est une sorte de photo de famille d'ensemble. Ce Photoshop, ça nous a pris du temps de le faire.
C'est clair.
donc voilà, chaque détail, c'est on essaye de le penser.
Et puis après, il y a le montage. Il faut avoir accès à tous ces extraits quand même. Il faut
ça pour récupérer les extraits. Donc soit on part des DVD parfois, soit des Blu-ray, soit on récupère des choses sur Internet. Ouais. On essaye à chaque fois de trouver les versions en meilleure qualité possible. Parfois on a aussi des images d'archives, donc pareil, il faut les chercher. Mmh. Et puis
oui, Michel Audiard, il y en avait un paquet aussi.
Ouais, quelques extraits d'interview. Ouais. Et voilà, mais ça, on commence à être rodé, on commence à avoir du coup aussi un disque dur avec beaucoup de films. Enfin voilà, on nous a fait remarquer qu'il y avait un extrait de La Tour Montparnasse infernale dans absolument tous les épisodes. forcément, les classiques, on retombe dessus. Donc, je crois La Chèvre, il y a quasiment dans tous les épisodes aussi. Parfois, on a besoin d'illustrer un truc et on va fouiller un peu dans la base de ce qu'on a récupéré et dans ce qu'on a utilisé dans les épisodes précédents. Ouais. Et puis aussi, on s'améliore. C'est-à-dire qu'on sait mieux chercher, on sait mieux travailler tel truc. Il y a des choses qu'on a déjà fait. Il y a des choses... On sait qu'on a vu un truc dans un film qui ne sert pas pour l'épisode présent, mais qui peut servir plus tard, ouais. Et inversement. Ouais, c'est un exercice... qui prend du temps, mais qui est aussi plaisant à faire. Quoi. C'est aussi ça qui est important pour nous, c'est que voilà, on prend aussi beaucoup de plaisir à faire les vidéos.
Ouais. D'autre part, tu as publié donc Movieland, d'abord un premier bouquin avec une carte et une façon de relier les films que moi j'aime beaucoup, parce que c'est quelque chose que je fais aussi beaucoup, que j'aime bien faire et que je fais sur Cinécure d'ailleurs, en proposant d'abord 4 films dans le podcast et puis la semaine d'après sur mon compte Instagram, j'essaye de relier 4 films aux 4 films proposés. Okay. Donc chaque film a son pendant.
Hein.
Voilà, exactement. Enfin, toujours en cherchant un point commun, tout ça, en essayant en tout cas. Et donc toi, tu fais des itinéraires quoi, qui sont après répertoriés sur une carte. Puis après, donc le jeu de société et après retour à Movieland. Comment ça s'est passé? D'abord, d'où vient cette idée, ce qui est un peu étrange, tu vois, et plaisante mais étrange. Et comment ensuite tu développes ça? Comment tu arrives à le vendre à un éditeur? Et comment ça se passe quoi en fait cette idée?
En fait, c'est une idée que j'avais depuis longtemps, même au tout début de Vodcaster. En fait, j'avais fait pour un peu la promo du lancement de Vodcaster, j'avais eu cette idée de faire une sorte de plan de métro pour mettre en forme le top 250 IMDb à l'époque. Donc il y avait les 250 meilleurs films de tous les temps d'après les internautes d'IMDb, mis sous la forme d'un plan de métro, du coup avec des lignes thématiques.
Alors IMDb, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Internet Movie Database, IMDb.com, qui depuis a été racheté par Amazon, mais qui à l'époque était un site, en tout cas moi c'est le site historique sur lequel je vais pour avoir les infos sur les films quoi.
Et qui reste la plus grosse base de données. C'est un peu le Allociné américain, sauf que c'est pas vraiment sur les séances de films, c'est plus sur le contenu, le cast, etc. Et en fait, ce site permet aux internautes de voter et un top 250 des meilleurs films de tous les temps, qui en plus, je sais pas si c'est toujours le cas, mais avait cette particularité, c'était Les Évadés, le premier du top.
Je crois que c'est toujours le cas.
Et c'est sûrement toujours le cas. Et puis il y a une petite histoire, en fait, c'est le cas parce que il y avait, je crois, un bisbille à un moment à la sortie de Dark Knight entre les défenseurs de Dark Knight et les défenseurs du Parrain. Justement, on y revient toujours. Et en gros, il y a eu une sorte de bataille de vote avec des créations de faux comptes, de machin. Et en gros, le truc qui a réussi à pacifier, c'est que ni l'un ni l'autre ne soit premier. Et donc, ils ont contre-voté pour The Shawshank Redemption, qui est Les Évadés. Ouais. Qui est aussi un bon film, mais de là à dire...
C'est le meilleur film de tous les temps.
Voilà. Et bref, donc j'avais fait cette carte et j'étais toujours un peu resté frustré. Parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de films dessus, que ce n'était pas les films que moi j'aurais choisi et que je me disais que le concept pouvait aller plus loin.
Ouais.
Et je me disais, un jour, si j'ai vraiment le temps, je ferai une carte hyper détaillée avec, plus de 1000 films.
Ouais.
Et je me suis lancé là-dedans et en fait, j'ai commencé par la carte. Donc, je me suis mis à dessiner. Au début, il y avait 5 films, 5 points sur un fond blanc et puis je commençais à les relier et puis à dessiner... un truc qui ressemblait vraiment à une carte, à des paysages, des forêts, des rivières. Et donc, les films qui se retrouvent dans une forêt vont être englobés par une thématique précise. Il y a une forêt qui correspond à la film noir forest pour les films noirs. Il y a la forêt des films de prison, etc. Il va y avoir aussi des rivières qui irriguent différentes régions. Donc, par exemple, le fleuve du braquage va traverser à la fois la comédie musicale, le film de gangster, le western, etc. Parce qu'en fait, tu peux être un film de braquage dans différents genres. Et donc, je suis arrivé à cette carte avec plus de 1800 films dessus, avec un paysage complètement imaginaire, structuré par ma cinéphilie et mon approche du cinéma. Et cette carte, je l'ai vendue d'abord moi tout seul. J'en ai vendu des impressions via Kickstarter. Et j'ai lancé ce Kickstarter, en fait, qui a très bien marché, et j'en ai vendu, en fait, dans le monde entier, via ce système, avec des précommandes, etc. Et c'est là que j'ai commencé à être contacté par des éditeurs qui voulaient, le décliner sous forme de livre. Et le principe du livre, du coup, c'est de proposer... donc, la carte est vendue avec le livre, elle est pliée un peu comme une carte Michelin à l'intérieur. Et le livre, c'est 50 itinéraires à l'intérieur de la carte. Donc à chaque fois, on part d'un film A, on va à un film B. Et comme tout est rangé par thématique, chaque chapitre va suivre une thématique particulière. Donc on va avoir un chapitre sur les films de boxe, les films sur l'amitié, les comédies de remariage, les western spaghetti, etc. Ouais. Donc c'est des thématiques soit, qui peuvent être plus ou moins précises. Et à chaque fois, il y a une dizaine, une quinzaine de films sur le parcours. Et donc, on peut se faire un petit mois thématique sur tel ou tel sujet et puis avoir la petite notice au fur et à mesure. Et j'explique comment les films sont connectés les uns aux autres. Mmh. Et dans ce premier bouquin, moi, j'ai écrit la moitié des chapitres. Et puis, j'ai aussi été chercher des experts de tel ou tel sujet.
Okay.
Donc, il y a 25 chapitres écrits par moi et 25 chapitres écrits par des contributeurs divers et variés. Okay. Et puis on a ensuite sorti le jeu de société, donc tout ça je faisais avec Hachette.
Ouais.
On a sorti le jeu de société qui est une sorte de bingo cinéphile. En fait, ouais. Chacun a une portion de la carte et on tire des sujets, soit objectifs, type un film des années 70, un film oscarisé, soit des trucs plus subjectifs, type un film qui me fait pleurer ou un film surcoté. Et c'est le premier qui le trouve sur sa portion de la carte, qui trouve un film qui correspond à la thématique, qui empoche le sujet, et puis on compte les points à la fin. Donc c'est un truc qui est aussi créé pour générer de la conversation sur les films. Ah bon, comment ça, tu trouves ça surcoté, machin? Ah bon, t'as pleuré devant ça? Moi, je trouve pas. Quand est-ce que t'as vu ça, etc. Et c'est aussi, le jeu, il est pensé pour justement pas être limité aux cinéphiles. C'est-à-dire que il y a aussi d'ailleurs des catégories qui sont juste des catégories de rapidité, type un film qui commence par M, un film sur une route jaune. Mm-hmm. Donc ça permet un peu à tout le monde de jouer. C'est pas forcément le plus cinéphile qui gagne, mm-hmm. mais normalement la partie crée de la conversation autour du cinéma. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. Et puis ensuite, le bouquin « Retour à Movieland », c'est encore une autre approche. J'avais été contacté par un illustrateur qui est un dessinateur de BD, dessinateur et scénariste de BD qui s'appelle Alex Chauvel, qui est installé à Berlin, que je trouve hyper doué, qui faisait déjà, avant qu'on se rencontre, pas mal de choses proches de la cartographie. Et on s'est dit, bossons ensemble, j'ai envie de me repencher sur la carte d'une manière différente. Et donc on a fait un grand et beau livre illustré avec en fait une vingtaine de cartes illustrées qui sont des zones de la carte. Mmh. Donc en fait on zoome sur le désert du Western, sur la film noir forêt, sur la vallée du drame. Chaque carte a un style graphique très marqué qui correspond à la région et c'est illustré du coup avec plein de petits pictos en rapport avec les films, des références, machin. Donc il y a un peu le jeu d'essayer de trouver. Parfois c'est des références évidentes, explicites. Parfois c'est des trucs c'est un peu plus discret dans le film. Donc on peut essayer de se dire tiens, ça, à quoi ça fait référence. Et là, pour le coup, j'ai refait un texte complètement nouveau qui se lit davantage dans la continuité et qui est un texte plus personnel à la première personne. Je dis « je » et en fait, je raconte mon rapport au cinéma et mon rapport aux différents genres. Je donne un exemple. Je parle à un moment du cinéma d'horreur et pour moi, mon rapport au cinéma d'horreur, il a été en deux étapes. En gros, quand j'étais gamin, ado, je regardais pas, j'entendais mes potes en parler et ça restait un peu un truc que j'osais pas explorer. Enfin, ça me faisait peur quand on entend parler.
Ouais.
Et ça a été un vrai tournant dans ma cinéphilie quand j'ai commencé à voir en fait les films d'horreur, quand j'ai commencé à découvrir Argento, Carpenter, Romero. C'est des chocs esthétiques, c'est des choses auxquelles je m'attendais pas et qui ont ouvert aussi plein de portes dans ma cinéphilie.
Ouais.
Qui m'ont aussi me fait dire il faut, en cinéphilie, il faut surtout pas avoir de tabou. Mmh. En fait, si t'as des a priori et que tu dis non, je regarde pas ça, c'est pas pour moi, etc. En fait, peut-être que tu te bloques des territoires cachés, incroyables. Et donc, ce livre raconte ça. Et voilà, les trois trucs sont très complémentaires et reflètent beaucoup mon approche effectivement décomplexée de la cinéphilie et mon envie en fait de créer des objets qui donnent envie de découvrir. Et la carte, c'est vraiment ça. C'est quand je fais des séances de dédicace, je fais toujours le même truc. Je demande aux gens, c'est quoi votre film préféré? On le retrouve sur la carte et on dit, vous partez de là et en fait, vous suivez les routes et vous allez découvrir des choses qui vous plaisent. Et c'est comme ça que ça fonctionne.
Ouais. Bah, c'est super en tout cas. C'est un très très beau, très bel objet. Et enfin, trois beaux objets. merci David.
Merci beaucoup.
Et puis félicitations. Bonne chance pour la suite avec Kalmos puis avec le reste. Et puis bah, peut-être qu'on se recroisera.
Avec grand plaisir.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez 5 étoiles sur les plateformes qui le permettent et parlez-en autour de vous, c'est la meilleure manière de faire connaître le podcast. Cinexplore est un dérivé de Cinécure, un podcast créé et réalisé par moi, Charles-Edouard Wasselin, et produit par Adrien Larousset, mon talentueux et patient compère pour Vaisseau Hypersensas, dont je remercie tous les membres pour leur patience et leur bienveillance. N'oubliez pas que sur le Discord du vaisseau, vous trouverez un channel Cinécure où nous discutons de tout ce qui est abordé dans le podcast et bien plus encore. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Cinécure Classique, le dernier de la saison. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao !